Le fils à papa qui seront bien sûr à l'affiche de cette quatrième édition de Sa Fanfaronne Grave qui officieront ce samedi à 19h et 22h. On parle de la Maladrerie, on parle de Gravigny et cette quatrième et belle édition de Sa Fanfaronne qui arrive très vite. En parallèle, parce qu'il se passe plein de choses sur le territoire et on n'a pas de préféré, on n'a pas de chouchou chez Principe Actif. On a, si tout se passe bien, Charlotte Berger au téléphone. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Charlotte, on va donner le cadre. Hein. Toi aussi très investi sur ton territoire qui n'est pas le même, qui est celui de Ménil-sur-Iton. On parle anciennement de Danville. Ménil-sur-Iton, c'est maintenant devenu un regroupement de communes. On va davantage dans le sud de l'Eure et il se passe plein de choses aussi. Et par exemple, va arriver pour le deuxième samedi du mois un événement ô combien sympathique le soir. Tu peux nous en parler un petit peu, Charlotte, s'il te plaît?
Oui. Alors, c'est les concerts de la Halle en Seine qui sont organisés depuis 5 ans, tous les mois de juin, tous les samedis de juin. On a déjà eu un samedi plutôt réussi en partenariat avec Amar.
Tu cherches le nom du groupe, mais il est passé, c'est ça. C'est le passé, c'était la semaine dernière.
Voilà.
C'était les
Makers.
Merci.
Un groupe de Pont-Audemer, de rock alternatif, et c'était très très bien. J'étais très agréablement surprise parce que c'était assez difficile de les entendre sur le net. Et donc samedi 13 juin, on aura la joie de recevoir les Denver sous la halle de Danville.
Un très bel écrin, on peut le préciser, hein. C'est en plein cœur du bourg, avec un magnifique dôme et un lieu qui dégage quelque chose, rien qu'à lui tout seul. Hein.
Oui, tout à fait, l'emplacement existe en tant que halle depuis 1500, cette halle-là, elle a été reconstruite en 1800 plutôt, et elle a une belle toiture, elle a une charpente magnifique. Et elle est énorme, elle fait 22 mètres de diamètre. Et du coup, on a la place pour y mettre une centaine de personnes, un groupe. Et l'avantage aussi de sa construction, c'est que le son se porte bien. Donc c'est plutôt sympathique. Elle est en plein centre d'une place, la place de la Halle, effectivement. Qui est à côté d'un café, Citadelle. Donc la Citadelle agrandit sa terrasse. Nous on ferme tout. Et puis ça nous fait un endroit plutôt chaleureux. Le format est simple mais convivial et ça fait un apéro sympathique, même très très sympathique. Les gens dansent, c'est familial, il y a des enfants.
Les rendez-vous sont à quelle heure, Charlotte, s'il te plaît?
Les rendez-vous sont à 19h tous les samedis de juin. Donc le 13, on a Denver. Le 20, on a Franck et Juliette Quartet, c'est plutôt du jazz.
Avec des figures hébreuxiennes bien connues, Quartet. Hein.
Voilà, et puis ils sont vraiment bons, il n'y a pas à dire quand même. Et ensuite, le samedi 27, on aura Ségurant, qui est vraiment du coin. Cette année, j'ai vraiment que du coin. Chanson française.
Un duo de qualité, je les connais, qui sont de Verneuil et qui sortent leur album à la fin du mois. Pour la petite anecdote, je les ai croisés pas plus tard que ce week-end à Sassonne à la Porte. Ils ont hâte d'en découdre de manière positive à Ménil-sur-Iton, à la halle de Danville à 19h en mode concert gratuit. On peut se restaurer, la Citadelle est ouverte, on peut se rafraîchir. On est bien. Un petit mot aussi s'il te plaît, Charlotte, une petite minute pour donner aussi un autre rendez-vous ô combien sympathique que tu portes avec d'autres associations. C'est celui du Festiton.
Oui, celui du Festiton, le festival de spectacle de rue. Cette fois-ci, ça, c'est sa 10e année.
Bravo.
Et donc, ça sera le 4 et le 5 juillet, toujours à Danville, dans les rues de Danville, un peu différemment, place de la mairie. Et sur les étangs. La formule est un petit peu différente cette année parce que ça a été repris par l'association ASLG qui porte l'école de cirque et qui a été à l'origine du projet les trois premières années. Et donc, on a un petit peu modifié deux, trois choses, mais pas grand-chose et ça reste... ça reste un beau festival.
Avec de belles représentations, avec... des artistes établis. Il y a quoi? Il y a 5, 6, 8 propositions durant le week-end?
Il y en a presque 7, je crois, entre le samedi soir, donc le festival qui commence le soir, avec un spectacle d'ouverture, une fanfare, les BTP, qui sont les brailleurs de tubes populaires, on a eu le coup d'œil, voilà. D'accord. Et puis le dimanche, on a deux spectacles le matin, un spectacle 1, 3, 4, et on a bien 6 ou 7 spectacles.
Bah, génial, on chope les infos comment?
On chope les infos sur Facebook, on a ouvert une page Festiton.
D'accord.
Donc on peut déjà trouver là. On a les flyers vont arriver prochainement. Il y a des affiches qui sont déjà là. Voilà.
Bon, en tout cas, vous bougez le popotin, vous proposez un week-end festif et sympathique, on l'a dit début juillet, mais en tout cas samedi, il y a aussi les très classieux Denver qui sont présents à 19h à la halle de Ménil-sur-Iton, en totale gratuité, voilà, pour vous, au plus près de vous, habitants du sud de l'Eure et qui n'avaient pas l'habitude parfois de franchir les salles de concert, voilà, ils viennent pour vous, grâce à cette belle organisation là à l'enseigne. On a dit les Makers la semaine dernière, Denver ce samedi, Quartet dans une semaine et Ségur dans 15 jours. Merci Charlotte.
Merci Damien.
Merci beaucoup pour ce petit éclairage. Tiens, on s'écoute quelques secondes de notes de la version duo. Mais en fait, là, il y aura les cuivres, il y aura les percussions et il y a de la voix. Il y a de la voix quand même chez Denver. Eh ben venez, mais venez aussi rejoindre à Gravigny, on finit avec vous messieurs, ce samedi et ce dimanche, ça fanfaronne grave, voilà, déambulation, jeu physique et visuel, c'est presque du spectacle vivant pour certaines formations, et puis après musicalement, ça va bien plus loin qu'on pourrait l'imaginer, soyez curieux et curieux, ça démarre à quelle heure ce samedi et ce dimanche, c'est en début d'après-midi, c'est ça messieurs?
Le samedi, donc le site ouvre à partir de 17h, donc avec les premières notes à partir de 18h, donc jusqu'à minuit, voilà. Minuit 30.
Et dimanche un peu plus tôt.
Et le dimanche, donc on ouvre à 11h, avec à 11h30, bah, là ça va être aussi un moment intéressant avec concert de l'Orchestre d'Harmonie d'Evreux, donc c'est 60 musiciens, enfin ça va un peu de gueule.
Ouais, s'il te plaît. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Grand Seb et Monsieur David, bravo.
Merci.
Bravo.
Un plaisir.
À la vitalité gravignaise. Je l'ai bien dit?
Exactement.
Parfait. Bravo.
Parfait.
Allez, bye bye. On est obligé de dire au revoir. Bye bye.
Salut.
Merci d'écouter RFI les midis à Paris, 10h temps universel. Le journal, Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Chantal Leroux, bonjour à toutes et tous. La colère en France après la mort de la petite Liana, la mère d'une autre victime présumée du suspect, attaque en justice l'État. Sa plainte pour viol était restée en attente pendant quasiment un an. L'armée israélienne continue ses frappes au Liban. Tir vient d'être touché. Les marges de manœuvre de Benjamin Netanyahou se réduisent quant à elle face à Donald Trump. Le président des États-Unis veut un accord avec l'Iran. C'est une question de jours selon lui, quand le premier ministre israélien insiste sur le droit de son pays à se défendre contre le régime iranien. Les pierres précieuses du Cabo Delgado alimentent le terrorisme des Chebabs au Mozambique. Révélation de notre grande enquête sur le pays, toute la semaine sur RFI. Et puis à deux jours de la Coupe du Monde de football, les Bleus ont un nouveau héros, Michael Olise. L'attaquant a réussi un triplé hier soir face à l'Irlande du Nord. Les ministres français de l'Intérieur et de la Justice sont sur le grill du Sénat, auditionnés ce matin par les parlementaires sur les dysfonctionnements de la justice française. Cela, 5 jours après la découverte du corps de la petite Liana, 11 ans. Un meurtre qui provoque beaucoup d'émotions en France, car le suspect avait déjà fait l'objet de plusieurs signalements, dont une plainte en août dernier pour viol sur une fillette. Une affaire pour laquelle la police et la gendarmerie ne l'avaient toujours pas auditionné. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour à tous.
On l'a appris ce matin, la mère de cette deuxième enfant présumée victime attaque l'État en justice.
Oui, alors pour bien comprendre, on va reprendre la chronologie. La plainte est en effet déposée en août 2025. C'est le parquet de Toulouse qui instruit le dossier et qui le transfère ensuite à celui de la ville d'Auch, compétent territorialement. Les premiers actes d'enquête ne seront lancés qu'en janvier début 2026, début d'année donc. Or, le suspect ne sera jamais convoqué par les magistrats. 3 plaintes sont donc déposées contre l'État pour faute lourde, contre les enquêteurs accusés d'avoir tardé à interpeller le suspect, déjà visé par plusieurs signalements, et contre le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. L'avocat de la mère de famille, Pierre de Buisson, s'en explique ce matin au micro de RTL.
Aujourd'hui, il feinte d'apprendre et d'être surpris de voir que le système judiciaire est en faillite totale. Il y a eu de nombreuses alertes. Moi-même, il y a quelques mois, je lui ai écrit pour dénoncer des dysfonctionnements concernant la mort de plusieurs enfants. Je n'ai pas eu de réponse. Nous en avons ras-le-bol de cette posture qui consiste simplement à tenter de sauvegarder ses propres intérêts personnels et de se dédouaner derrière l'État.
Une plainte en forme de réponse à Gérald Darmanin qui répète que dans cette affaire, les moyens n'ont pas manqué, que le problème est celui de la priorisation des plaintes pour viol sur mineurs. Le ministre qui a lancé, on le rappelle, une enquête administrative dont les conclusions sont attendues dans 2 semaines.
Baptiste Coulon, merci beaucoup. Cette affaire suscite donc une grande indignation en France. 216 rassemblements ont réuni plus de 60 000 manifestants hier soir dans de nombreuses villes du pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y avait notamment 2900 personnes à Paris, près du ministère de la Justice, malgré l'interdiction du rassemblement par la préfecture de police. Vous écoutez bien RFI, il est 13h03 à Jérusalem et à Beyrouth. Donald Trump le promet une nouvelle fois, je le cite, un très très bon accord est sur le point d'être conclu avec l'Iran. C'est l'affaire de 2 à 3 jours, selon le président des États-Unis. Cela malgré les nouveaux affrontements qui ont éclaté dimanche entre l'Iran et Israël. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, martèle que son pays a le droit de se défendre, mais il ne peut pas prendre le risque non plus de froisser son allié américain. Vincent Souriau.
Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël. Quels que soient les grands discours de Benjamin Netanyahou, dit-il, à l'heure actuelle, sa politique étrangère se décide à la Maison-Blanche.
Lorsque Trump lui demande de cesser le combat, il s'exécute la plupart du temps. Et si Trump lui donne le feu vert, il reprend ses opérations. Israël a perdu beaucoup d'indépendance dans sa manière d'appliquer sa stratégie. Ce n'est pas que les relations soient fragiles, c'est que la dynamique entre ces deux dirigeants est telle que si Netanyahou ne s'aligne pas sur ce que Trump attend de lui, il s'expose à des mesures de rétorsion.
Benjamin Netanyahou, pieds et poings liés, parce que d'après Dan Arbel, le premier ministre israélien a aussi placé son propre avenir politique entre les mains du président américain.
Il espère que la pression que Trump exerce sur le président israélien fonctionne et qu'il finisse par être gracié de ses procès criminels. Netanyahou mélange les intérêts politiques d'Israël avec ses considérations personnelles et il est prêt à faire tout ce que Trump lui demande parce qu'il espère que Trump va l'aider personnellement et politiquement. C'est pour ça qu'il perd les leviers qu'il pouvait avoir.
En octobre, il y a des élections en Israël. Benjamin Netanyahou rêve, selon Dan Arbel, que Donald Trump le soutienne, comme il l'a fait par exemple avec Viktor Orban, et clamant public qu'il n'y a pas d'autre choix raisonnable pour les Israéliens. Vincent Souriau, Washington RFI.
Les hostilités continuent par ailleurs au Liban. L'armée israélienne vient de bombarder la ville de Tyr, dans le sud du pays. Quelques heures après avoir donné l'ordre d'évacuer aux habitants, une autre attaque hier soir sur la même ville avait fait 5 morts et 8 blessés, parmi eux 4 secouristes, selon le ministère libanais de la Santé. Le dernier bilan des frappes russes de la nuit dernière est désormais de 5 morts, selon l'Ukraine, l'armée de l'air ukrainienne, qui explique que la Russie a lancé 166 drones à longue portée et 2 missiles. Une femme et 2 hommes ont donc été tués à Tchougouïv, dans la région de Kharkiv, 2 autres personnes à Zaporijja, dans le sud du pays. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, où les Européens cherchent donc à augmenter leur armement, ce revers dans le domaine de l'aviation, Paris et Berlin enterrent un projet d'avion de combat du futur, le SCAF. Les industriels des deux pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Franck Alexandre.
Le SCAF, c'était la chronique d'une mort annoncée, tant depuis des mois, tous les acteurs semblaient déterminés à mettre un terme à ce projet. Airbus d'abord, en particulier la filiale allemande qui, de la direction au syndicat, refusait de concéder aux Français Dassault le rôle de maître d'œuvre. Dassault ensuite, qui, fort de son succès avec le Rafale, refusait de se diluer dans un consortium européen dominé par Airbus. Le Français voulait choisir ses fournisseurs et conserver son savoir-faire, en quelque sorte rester indépendant. Éric Trappier, son PDG, n'avait cessé de le marteler. Contrairement à Airbus, Dassault, disait-il, sait construire seul un avion de combat. Dans ces conditions, Berlin refusait de financer un avion répondant aux stricts besoins français, c'est-à-dire pouvant apponter sur un porte-avions et emporter l'arme nucléaire, chacun pour soi. Donc, reste que ce projet d'avion de chasse européen devait drainer 100 milliards d'euros et nul ne sait aujourd'hui comment sera financé le remplaçant du Rafale français et de l'Eurofighter allemand.
Franck Alexandre, l'actualité, c'est aussi la confiscation des ressources naturelles du Cabo Delgado au Mozambique. Une confiscation des ressources qui nourrit le terrorisme des Chebabs. C'est le premier épisode de notre grande enquête exceptionnelle Mozambique Exposed, menée avec d'autres médias du consortium Forbidden Stories. On vous en reparlera dans notre prochain journal à 11h, temps universel. Et c'est aussi à lire sur notre site à toute heure. Rendez-vous donc sur www.rfi.fr. Le football maintenant et l'équipe de France qui a bouclé sa préparation pour le mondial avec une belle victoire, 3-1 contre l'Irlande du Nord à Lille hier soir. Un succès qui a rassuré un peu les Bleus après leur défaite la semaine dernière contre la Côte d'Ivoire. Tout n'a pas été parfait, Cédric De Oliveira, mais l'une des grandes satisfactions, c'est la confirmation de la forme de Michael Olise, auteur d'un triplé. Ce jeune attaquant est devenu indispensable à la sélection.
Il est sans doute l'attaquant français le plus impressionnant du moment. Michael Olise, 17 sélections à peine et déjà 7 buts, dont 3 hier. Un festival qui a conquis tout le monde, à commencer par ses coéquipiers Maxence Lacroix et Malo Gusto.
On sait qu'il est très bon dans ce qu'il fait, il nous fait du bien. Et quand tu mets 3 buts en un match, tu sais que c'est un point élément de notre équipe.
Très gros frère, 3 buts. Ouais, c'est un top joueur. Voilà, on sait qu'on a voir des joueurs qui le demandent comme ça, c'est juste normal.
Olise, c'est le talent et la classe visible, notamment sur son 3e but, une frappe du gauche dans la lucarne du gardien nord-irlandais. Sa signature est la confirmation qu'il est capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Après une saison à 22 buts et 31 passes décisives avec le Bayern Munich, il est l'international français le plus déterminant de la saison, pour le plus grand plaisir de son sélectionneur Didier Deschamps.
Non, Michael est rayonnant, il est en pleine confiance et il est tellement décisif. En plus de ça, pour un joueur offensif, il a une capacité à faire les efforts qui est assez remarquable. Donc on aura besoin d'un Michael à ce niveau-là.
En attendant l'efficacité retrouvée de Kylian Mbappé, le capitaine, et du ballon d'or Ousmane Dembélé, les Bleus savent qu'ils peuvent compter sur le Munichois. À 24 ans, Olise pourrait bien marquer de son empreinte cette Coupe du Monde.
Et les Bleus s'envolent ce mardi vers les États-Unis, plus précisément vers Boston, leur camp de base pour le Mondial. La Coupe du Monde, on le rappelle, débute dans 2 jours. Nous serons d'ailleurs en édition spéciale jeudi matin sur RFI. Mais en attendant, il est quasiment 10h10 en temps universel. C'est l'heure de retrouver Lucie Bouteloup pour 8 milliards de voisins.
Bonjour Diane Berger. Aujourd'hui, nous allons vous parler du télétravail dans 8 milliards de voisins. On se retrouve tout de suite.
Demain, retrouvez à 13h31 Pascal Paradis.
Avec le droit de...
Sit beneath the window of our lives. It all seems a little simple, hypnotized. Made for you, made for me, made for whoever wants to feel. Know the meaning of you and I. Take my hand to Wonderland. I'll be the man that you want me to be. Just say the word, heart to hand, hand to heart. There's nothing I wouldn't do.
directly in your eyes. I just want to read the pages of your life. Please don't think that I want to criticize. I just want the meaning deep inside. The man that you want me to be. Hand to heart, heart to hand, and nothing I wouldn't do to be here with you. Yeah. Oh, to be here with you. Yeah. Oh, just nothing. But I try. For what it's worth, the fight is worth it, rich in time. Take my hand to Wonderland. I'll be the man that you want me to. Yeah!
Principe actif.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur la modulation de fréquence.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.